pour vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui sur un sujet qui nous tient à cœur. C'est regrettable qu'il n'y ait pas plus de monde, mais les handicaps font peur. Et que malheureusement, dans la société française, le souci du handicap n'est pas un souci aussi répandu qu'il l'est dans les sociétés anglo-saxonnes. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe de Normandie, qui a une compétence pour nous parler du handicap, puisqu'il est à la fois chirurgien orthopédiste à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, hôpital hélas bien connu, à cause de toutes les fatalités de l'existence qui s'y retrouvent, et il est en même temps responsable de la mission handicap, conseiller du directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il est interne des hôpitaux de Paris, 79-83, docteur, chef de clinique assistant des hôpitaux de Paris dans les années 80, responsable de... Ensuite, il a travaillé à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il est chirurgien des hôpitaux de Paris depuis 1989. Et comme je vous dis, il a cette double responsabilité, à la fois pratique, et thérapeutique et pratique, comme chirurgien orthopédiste et comme spécialiste du handicap auprès de l'assistance publique. Il a publié des articles médicaux, et notamment une trentaine sur la prise en charge de la personne handicapée. Et je vous signale notamment, pour ceux qui sont particulièrement intéressés à ça, et moi j'en suis tout à fait intéressé, le premier, deux ouvrages qui sont publiés par Douin et Assistance publique Hôpitaux de Paris. L'un, un dossier sur Espacetti, sur l'annonce du handicap, sous sa direction et celle de Emmanuel Hirsch, cet ouvrage. Et puis un autre sur architecture et handicap, concevoir l'hôpital pour tous, sous la direction de Philippe de Normandie, Hélène Fortin, et au titre de la mission handicap, direction du patrimoine et de la logistique. Voilà, ces deux ouvrages sont ici, mais en tout cas, gardez la référence, Douin, D-O-I-N, éditeur, les guides de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Merci.
Merci beaucoup. Je suis ravi de pouvoir vous parler de ce sujet vaste de la maîtrise des handicaps. On va pouvoir mettre les diapositives, s'il vous plaît. Donc, c'est un sujet particulièrement d'actualité. On n'a qu'à voir, la semaine dernière, c'était la semaine des handicapés qu'un certain nombre d'associations pilotaient. Ce sujet est particulièrement vaste par son champ d'application. En effet, comme vous le savez, les handicaps peuvent représenter différents types de domaines. À la fois le handicap sensoriel, mais le handicap psychique, physique, mental, et souvent, en fait, il y a des handicaps associés. Et donc, la maîtrise des handicaps nécessite, en fait, de comprendre à la fois la constitution des handicaps et toutes les actions sur lesquelles on va pouvoir agir pour essayer d'éviter et de prévenir les handicaps. Donc, on va étudier successivement, premièrement, un rappel sur la définition et l'épidémiologie, qu'on soit bien d'accord sur les mots. Deuxièmement, qu'on essaye de bien comprendre quelles sont les étapes qui constituent un handicap. Enfin, de pouvoir analyser quelles sont les solutions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour essayer de maîtriser les différents types d'étapes. Et enfin, insister sur un point qui est l'évolution du handicap dans le temps, puisqu'on vieillit, le handicap vieillit avec nous. Quelques chiffres et un rappel de définition. Quand vous ouvrez le Larousse, en fait, le handicap, ça correspond à... Et la définition, c'est désavantage quelconque, infirmité, qui met quelqu'un en état d'infériorité. En fait, le terme handicap... à une utilisation fréquente dans le langage courant, assez récente en fait, et souvent là, ça reflète une notion qui est relativement floue, avec des niveaux tout à fait variés. Si on essaie de revoir un peu l'historique du mot handicap, en fait le mot handicap provient, c'est un nom anglais qui provient de hand in cap, qui signifie la main dans le chapeau. En fait, c'était un jeu de hasard au XIVe siècle. Il y avait une notion d'échange d'objets ou de moyens entre individus pour essayer d'obtenir des parts égales. En fait, il s'agissait d'une volonté de rétablir par tout artifice utile les inégalités qui étaient les inégalités naturelles. Le terme handicap, en fait, est rentré dans un langage plus courant, essentiellement depuis 1970. On le retrouve dans les premiers textes seulement en 1957, et en particulier à partir d'un certain nombre de travaux de M. Wood et d'une classification internationale qui a été élaborée au niveau d'un travail important au niveau de l'OMS. Quelques chiffres pour voir un peu les enjeux que représente la maîtrise des handicaps en France. Au point de vue épidémiologie, on peut considérer d'abord qu'on a beaucoup de mal à avoir un recensement précis. C'est extraordinaire comment on peut être flou dans ce domaine-là, on y reviendra. Pour les personnes présentant un handicap sévère, qui diminue de façon importante leur autonomie et qui affecte durablement ou définitivement leur vie sociale ou professionnelle, on estime le nombre à environ 1,9 million en France, soit un peu plus de 3% de la population. L'incidence des handicaps sévères est environ de 34 pour 1000, avec des différences significatives suivant les âges, puisqu'on considère que c'est environ 14 pour 1000 chez les enfants, alors qu'on va être sur plus de 60 pour 1000 chez les personnes au-delà de 65 ans. L'évolution du nombre de handicaps. En fait, le nombre de handicaps globalement dans la société française a tendance à augmenter, et ce pour deux raisons. Premièrement, il y a un vieillissement des personnes handicapées. Et en fait, toutes les études montrent une augmentation, heureusement, de l'espérance de vie des personnes qui sont handicapées, dans les différents types de domaines de handicap. Mais parallèlement, le nombre de personnes qui présentent annuellement des nouveaux handicaps reste stable. Les récentes études qui ont été menées par l'INSERM, en particulier en s'appuyant sur un certain nombre de registres épidémiologiques, soit au niveau européen, soit au niveau français, montre qu'en fait ce chiffre est stable. Alors, quand on reprend un peu l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu une baisse qui a été espérée dans les années 70. Il y a eu une politique de santé particulièrement active, en particulier pour essayer de diminuer dès les années 70 le nombre de personnes handicapées, particulièrement au regard de la pathologie périnatale ou des accidents de l'enfance. S'il y a eu un réel succès de cette politique, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse qui a été significative entre les années 70 et 80, et en fait on se rend compte qu'à l'heure actuelle on est sur une stabilité en gros depuis 1980, et en gros quels que soient les types de handicap. Je vais vous donner quelques exemples, par exemple, l'infirmité moteur cérébrale, il y a eu une réelle baisse jusqu'en 1980, en fait il y a une stabilisation depuis, pour plusieurs raisons, en particulier parce qu'il y a une augmentation, ou en tout cas une stabilisation du nombre des prématurés. Les grossesses multiples sont plus fréquentes. Il y a de façon plus fréquente une certaine exclusion d'un certain nombre de femmes enceintes qui arrivent et qui, au dernier moment, n'ont pas été suivies. D'autre part, on a des réanimations qui sont des réanimations les plus poussées. Et on a pu montrer que le taux de survie d'enfants de 24 semaines est réel, mais par contre, il y a un taux d'infirmité qui est assez important puisqu'on considère qu'il y en a 50% qui ont des séquelles. Par contre, heureusement, on s'est rendu compte que pour les enfants qui naissent à la 34e semaine, le taux a pu diminuer puisqu'il était 30% il y a quelques années, on est tombé à 10% à l'heure actuelle. Pareil, au niveau du retard intellectuel, globalement, on se rend compte que le retard actuel reste relativement stable. Certes, il y a une baisse sur la trisomie, sur les enfants trisomiques, par contre, il y a globalement un chiffre qui reste relativement stable. Autre exemple, les handicaps post-traumatiques. C'est la deuxième source de déficience grave. Eh bien, on se rend compte que si globalement le nombre d'accidents, par exemple, de la route ont diminué, par contre, la gravité des accidents, elle, est restée stable, et on peut considérer qu'on garde en France environ 5000 traumatisés crâniens graves par an depuis les 10 dernières années. Chiffre stable. Quels sont les types de handicaps et en gros les grandes répartitions? Je sors d'une une étude qui a été faite au niveau de Paris pour essayer d'étudier les grands types de déficience. Vous voyez en fait que la part de la déficience mentale, psychique et les déficiences moteurs représentent environ 25%. Le sensoriel environ 15%. Toutes les déficiences, tous les handicaps d'origine viscérale, les problèmes cardiaques, les problèmes digestifs, environ 11%, et en fait que très souvent, en fait, il y a des handicaps qui sont associés, puisque environ 25% des gens qu'on considère comme personnes handicapées ont un handicap associé. Enfin, dernière notion importante, le coût social, le coût uniquement social. On ne parle pas du coût sanitaire, il est très difficile à déterminer. Le coût social du handicap représente un coût d'environ 150 milliards de francs, c'est-à-dire environ 6,3% des dépenses sociales en France. Alors, une fois qu'on a planté ce décor, qui montre quand même l'importance de l'enjeu de la maîtrise des handicaps, il faut arriver à comprendre comment pouvoir maîtriser les handicaps. Et donc, je vais m'attarder un peu sur ce qu'on appelle la construction du handicap. Cette construction du handicap, en fait, elle s'appuie sur des schémas donc, qui ont été proposés, et particulièrement dans le cadre de la classification internationale de l'OMS, qui a été faite en 1980, qui a été réajustée en 1992, et qui est à l'heure actuelle à nouveau dans une réévaluation. On peut distinguer quatre stades qu'on va étudier successivement. La lésion, la déficience, l'incapacité, et tout ça pouvant entraîner un désavantage social qui, lui, correspond à un handicap. La lésion, en fait, c'est donc le premier élément, le moteur, pour pouvoir provoquer une situation de handicap. En fait, la lésion, donc, ça va être l'altération d'un organe, quelle que soit l'étiologie. C'est-à-dire que ça peut être soit accidentel, soit que ça peut être génétique. Et en plus, en fonction du caractère génétique ou accidentel, il peut y avoir des moments de survenue différents. En effet, on peut avoir une cette lésion peut survenir en anténatal. Par exemple, la génésie des membres, un membre qui ne s'est pas mis à pousser, souvent c'est un problème éventuellement de malposition dans le ventre de la mère, il y a plusieurs causes. Eh bien, c'est quelque chose d'acquis. À l'inverse, effectivement, le diagnostic anténatal de la trisomie, on va pouvoir le faire, ça correspond à une lésion génétique. En postnatal, d'autres ont parlé d'insuffisance motrice cérébrale, c'est typiquement un domaine acquis, ce n'est pas génétique, c'est parce qu'il y a une souffrance fœtale qui a entraîné une insuffisance motrice cérébrale. Soit tardive et en fait très variable, qui peut survenir au niveau de l'enfance, au niveau de l'adulte. Il peut y avoir des lésions génétiques à révèlement, qui se révèlent de façon tardive. Par exemple, certains types de myopathie, on peut avoir des révélations qui peuvent être tardives, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, beaucoup plus tard. Et à l'inverse, les lésions acquises peuvent survenir, bien évidemment, n'importe quand. La prise en charge de cette lésion, elle peut permettre soit la guérison, je guéris et on n'en parle plus, soit par contre, il peut y avoir des séquelles. Et ces séquelles peuvent avoir à ce moment-là un retentissement sur le fonctionnement de l'organe et donc va entraîner une déficience. Par exemple, je vous ai mis une radio de fracture de jambe, bah, c'est une lésion, soit on arrive à consolider, il ne va plus y avoir de séquelles, on va être guéri. Soit par contre, il va y avoir des séquelles parce que le pied va être de travers, la fracture va être consolidée de travers, et bien il va y avoir des séquelles en ce qui concerne les possibilités de déambulation et de station debout, donc il va y avoir une déficience. Et donc la déficience va correspondre à la persistance de stigmates issus de la lésion. En fait, ça correspond donc à toute perte de substance ou l'altération d'une structure ou d'une fonction, exemple une fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Donc en fait, il va y avoir, la déficience va être l'extériorisation d'un état pathologique qui peut se manifester sur plusieurs organes ou sur une fonction. Il peut y avoir une lésion du pancréas qui va vous entraîner, par exemple, des troubles et entrer des troubles métaboliques, exemple le diabète. On recense en fait 9 catégories de déficience. Toujours, ça c'est dans le cadre de la classification. Vous voyez, elles sont nombreuses, les déficiences intellectuelles, physiques, du langage et de la parole, auditives, de l'appareil oculaire, on est dans le domaine des sens, les autres organes, de tout ce qui est du domaine du squelette et de l'appareil de soutien esthétique, et enfin les fonctions générales sensitives et d'autres déficiences. Et donc l'enjeu, en fait, ça va être de pouvoir suppléer cette déficience. Si je supplée cette déficience, on va considérer qu'on ne va pas entraîner d'incapacité. Si je n'y arrive pas, eh bien on va provoquer une incapacité. Et ce, quelles que soient les techniques utilisées, malheureusement, de temps en temps, on conduit à l'incapacité. L'incapacité. En fait, la capacité, elle correspond à une réduction partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites qui sont considérées comme normales pour un être humain. Donc là, vous voyez qu'on sort des notions du corps, proprement dit. On est dans la notion de l'action, de agir, et agir par rapport à une certaine norme ou ce qu'on se considère être des actions normales pour un être humain. Cette atteinte ne porte donc plus sur cet organe ou le mécanisme physiologique. Sur les activités, finalement, les activités de la vie quotidienne. On peut considérer qu'il y a 9 catégories d'incapacités. Et donc, ça va être beaucoup plus des incapacités de type soit de comportement, une incapacité à la communication, à réaliser ses soins corporels, à la locomotion, pouvoir se mouvoir, réalisation des tâches domestiques, l'adresse dans les activités de la vie quotidienne, les aptitudes à la vie professionnelle, et enfin les autres types d'incapacités. Et il faut également souligner que ces incapacités, en fait, elles peuvent avoir différents aspects. Elles peuvent avoir un aspect qui soit un aspect temporaire ou qui soit un aspect permanent, et notamment en fonction des possibilités que l'on va avoir de maîtriser cette incapacité. Et d'autre part, si l'incapacité agit sur l'action, agir, il faut également insister sur le fait que l'incapacité, elle intervient également dans la capacité de l'apprentissage. Et c'est particulièrement vrai pour l'enfant. Je vous prends un exemple. La survenue de la surdité chez un adulte modifie le timbre de sa voix, mais n'empêche pas à la personne de continuer à parler. Elle n'est pas muette. Par contre, chez le nouveau-né, c'est tout le développement et la mise en place du langage articulé qui se trouve compromis par l'apparition d'une surdité. Et donc, vous voyez bien qu'il y a de nouveau de l'incapacité, une capacité à agir, une incapacité à apprendre. Si on n'arrive pas à pouvoir suppléer cette incapacité, eh bien, à ce moment-là, apparaît ce qu'on a appelé le désavantage social. On est toujours un peu dans des logiques négatives. Le désavantage social, en fait, ça correspond à la création du handicap proprement dit. Il résulte, pour un individu donné, d'une déficience qui entraîne donc une incapacité, qui va limiter ou interdit l'accomplissement d'un rôle normal par rapport à l'âge, le sexe, le secteur social ou culturel communément admis. Donc vous voyez bien qu'on va rentrer là dans une logique d'une incapacité entraînant des avantages par rapport à un environnement et à un certain nombre de valeurs cet environnement. Cependant, donc, ce ou ces rôles pour la société qui attend l'accomplissement des individus varient bien évidemment suivant la culture, le pays, l'environnement, les possibilités matérielles. Ce qui va donc exprimer d'emblée, on voit cette notion de variabilité. On a identifié 7 dimensions des désavantages. Un désavantage est donc un handicap autour de l'orientation, indépendance physique, de la mobilité, de l'occupation, de l'intégration sociale, du désavantage économique, difficulté ou pas à travailler, et d'autres types de désavantages. Ce désavantage apparaît donc très dépendant de l'environnement. Donc la maîtrise et l'évolution de l'environnement créent ou ne créent pas l'expression de ces désavantages. Ainsi, de nombreuses personnes dites handicapées ne le sont que par rapport à un certain nombre d'accomplissements de leurs tâches, qui dépendent de l'environnement dans lequel elles sont. L'incapacité devient un handicap lorsque la personne sollicite la fonction qui a été atteinte, qui entraîne à ce moment-là un obstacle à l'accomplissement d'une ou plusieurs de ses activités, mais pas forcément toutes. L'exemple typique, c'est le fauteuil roulant. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il est porteur d'un handicap majeur quand il va consister de monter ou descendre les escaliers. On a vu quelqu'un arriver en fauteuil roulant dans cet amphithéâtre, c'est particulièrement compliqué. Par contre, quand une personne qui est en fauteuil est devant son ordinateur ou qu'elle joue aux cartes avec vous, son handicap disparaît. Ainsi donc, la maîtrise de l'environnement sera un des éléments clés dans la maîtrise de la survenue ou pas d'une situation de handicap. Et donc on voit apparaître l'importance d'une prise en charge collective de cette notion du handicap. Au total, donc vous avez vu qu'il y a une construction du handicap. La lésion, on va l'organe, la déficience, l'organisme, on est dans le corps. Ensuite, l'incapacité, ça va intéresser l'individu et sa capacité à agir ou à apprendre. Et tout ça, en fonction de l'environnement, eh bien, on va entraîner ou pas une situation d'handicap. Et donc, une personne, elle n'est pas handicapée, ce n'est pas un sceau ou un label. C'est une personne comme tout le monde qui, à un moment donné, comme nous tous, je porte des lunettes pour lire, j'ai besoin de porter des lunettes. À un moment donné, dans un certain nombre d'activités, je me retrouve dans une situation qui exprime une difficulté dont je peux être à ce moment-là catalogué, parce qu'on aime bien cataloguer chez nous, de personnes handicapées. Et donc, ainsi, on va pouvoir considérer donc que la déficience, à déficience identique, enfin, c'est important d'y insister, la personne sera en situation de handicap très variable d'un individu à l'autre, en fonction donc de son propre projet de vie, de son environnement, de son pays et de sa culture. Et on va insister, on réinsistera sur cette notion de projet de vie. Ça dépend de son souhait personnel et des activités que l'on souhaite faire. Et donc la maîtrise du handicap, elle va dépendre de notre capacité à agir sur ces différents types de niveaux, lésions, déficiences, incapacités, désavantages. Et donc, elle va s'appuyer sur un certain nombre d'éléments qui vont être la connaissance, les possibilités de diagnostic, les possibilités thérapeutiques, les possibilités de prévention. Je remonte, excusez-moi. Les possibilités de prévention. On va étudier donc successivement, dans la même démarche, pour garder une approche tout à fait méthodologique, mais pour bien décortiquer les possibilités, la maîtrise du handicap. D'abord, maîtrise du handicap autour des lésions. Donc, on a vu qu'il y avait des lésions qui sont génétiques ou des lésions acquises. En fait, et je ne reviens pas sur les types de survenus. En ce qui concerne les lésions génétiques, il y a 4 axes sur lesquels on va intervenir en ce qui concerne la maîtrise. Premièrement, une meilleure connaissance. Meilleure connaissance des lésions génétiques, cela a été déjà étudié dans de nombreuses conférences, j'ai vu dans le programme, à la fois sur la connaissance du génome, les possibilités de connaissance des anomalies génétiques. En effet, localiser, identifier, comprendre les mécanismes des gènes, c'est percer les secrets les plus intimes de la maladie, première étape indispensable pour envisager le remplacement du gène défectueux par un gène sain. Deuxième élément très important, le diagnostic des lésions génétiques. Il va reposer sur un certain nombre d'éléments. Premièrement, le développement de la mise en place des tests diagnostiques qui est une évolution d'un champ considérable par leur application et permettant de faire des diagnostics précoces et bien sûr plus nombreux. Mais qui dit diagnostic précoce et dit diagnostic plus nombreux nécessite forcément l'accès aux équipes médicales, qui est un enjeu important de la maîtrise et qui est souvent revendiqué car insuffisamment réalisé à l'heure actuelle. Cet accès aux équipes dépend d'une information générale des professionnels, en particulier des médecins, de la constitution de réseaux de prise en charge, afin de pouvoir identifier les équipes soignantes et les équipes expertes, il ne peut pas y avoir partout des équipes qui connaissent ce que c'est le diagnostic précoce. Il faut que l'on puisse concentrer les moyens. Avec un objectif, éviter le retard diagnostique qui est source d'aggravation des séquelles. En effet, par exemple, il y a une étude américaine récente, tout à fait intéressante, là encore, qui a montré que chez les nouveau-nés sourds, sur des étiologies génétiques, qui sont dépistées très tôt, avant le sixième mois, eh bien, ceux-ci développeront des meilleures possibilités linguistiques avec une problème meilleure insertion sociale si on a réussi à faire le diagnostic tôt. Et cela, c'est valable pour de nombreuses maladies, en tout cas de nombreuses lésions. La maîtrise thérapeutique, elle, des lésions génétiques, il va falloir distinguer en fait deux étapes qui ne sont pas du tout les mêmes et qui n'ont pas du tout les mêmes choix. Premièrement, la maîtrise thérapeutique des lésions génétiques anténatales. Les possibilités thérapeutiques sont encore extrêmement restreintes, voire inexistantes, alors que, comme on vient de voir, les techniques d'investigation et de diagnostic sont par contre beaucoup plus importantes. Donc le diagnostic anténatal a une originalité très particulière. C'est un diagnostic sans pratiquement aucune thérapeutique à ce jour, mais pas sans aucune solution, l'interruption thérapeutique de grossesse. Donc la maîtrise du handicap anténatal se résume actuellement, et probablement dans les années qui viennent, pour la grande majorité des choix diagnostiques, à un choix éthique, interruption ou non. Ce diagnostic anténatal s'est imposé de manière légitime. Il n'en demeure pas moins qu'il y aura toujours un soupçon d'eugénisme ou de normalisation qui peut peser sur celui-ci. Les risques d'erreur sont toujours possibles. D'autant que la réflexion se fait sur la base d'une notion à risque, potentielle, et non sur la certitude que l'enfant à naître présente des lésions, source d'incapacité et de handicap. En effet, les diagnostics anténataux identifient une lésion chromosomique, mais ne permettent pas d'identifier en aucun cas l'importance du retentissement de ces lésions, et donc l'importance du handicap secondaire. Par ailleurs, la détection d'une anomalie génétique fait émerger l'idée qu'il s'agit d'une souffrance à venir, inutile, de quelque chose qui n'est pas encore inscrit dans l'irrémédiable. On voit donc ainsi la tentation d'exiger du médecin des enfants de plus en plus conformes à la norme de l'idée que l'on s'en fait, comme cela a été souligné dans un certain nombre d'études. On pourrait passer ainsi d'un eugénisme privé à un eugénisme collectif où se déciderait une nouvelle politique sociale de prévention et de maîtrise des handicaps. Parallèlement, les progrès de la recherche sur la cartographie du génome humain ont créé immanquablement de nouvelles attentes en matière du diagnostic anténatal ouvrant véritablement la voie à la médecine prédictive. Qu'est-ce qui va arriver beaucoup plus tard? C'est-à-dire de capable d'essayer non seulement des anomalies présentes, mais des anomalies à venir, avec prédisposition. Mais de quel niveau, de quelle importance, quel sera son retentissement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? La maîtrise du handicap dans cette approche qui reste axée sur la suppression des fœtus anormaux, et quelle est la définition du fœtus anormal, posera des problèmes éthiques et commence un projet majeur dans les prochaines années, où devra exister un débat de société entre les valeurs d'une société, le cadre juridique, les certitudes et les incertitudes médicales. La maîtrise des thérapeutiques post-natales, elles sont tout autres. Elle fait en fait appel à deux voies complémentaires. Premièrement, la thérapie génique. C'est la voie idéale du traitement de la lésion. Vous savez que plusieurs essais thérapeutiques sont en cours en France sur la mucoviscidose, les déficits immunitaires de l'enfance, certaines formes de cancer. J'ai vu que, en lisant un article hier, j'ai vu qu'on venait d'enclencher le premier essai de thérapie génique en France contre un type de myopathie qui doit commencer dans les jours prochains à la Pitié-Salpêtrière. Ces recherches actuelles suscitent l'espoir de maîtriser efficacement les lésions. On doit toutefois rester prudent en ce qui concerne leur capacité à contrôler totalement la lésion et surtout leur date de généralisation. Ce qui souligne l'importance actuelle du traitement symptomatique et substitutif sur lequel il faut continuer à se battre. Ces traitements, ils ont pour objectif de traiter les conséquences de la séquelle, mais de la lésion, mais pas la lésion elle-même. C'est par exemple les compensations, je prends l'exemple tout, c'est les compensations endocriniennes chez les personnes déficitaires quant à la production de telle hormone ou substance. Enfin, la maîtrise des lésions génétiques passe forcément par la prévention des maladies génétiques qui est essentiellement axée actuellement autour du conseil génétique, permettant d'éviter la survenue d'anomalies génétiques grâce à un conseil qui entraînerait donc inutilement des lésions. Exemple, c'est l'exemple de l'hémophilie, où des patients peuvent être, où on peut être porteur sain, et en fait, autour du conseil génétique, on peut avoir un certain nombre d'éléments permettant d'avoir une évaluation du risque d'avoir un enfant ou pas porteur d'une anomalie. À côté de la maîtrise des lésions génétiques, on va étudier maintenant la maîtrise des lésions acquises. Trois axes. Premièrement, sur lequel on va pouvoir agir. Premièrement, une meilleure connaissance. C'est un élément clé. Malheureusement, la connaissance épidémiologique des survenus des handicaps reste au niveau national particulièrement pauvre. Il y a peu d'études, faible et dans pratiquement tous les domaines de handicap. Ce manque de connaissances concernant le nombre, les conditions de survenue, la sociologie de tel handicap acquis est pourtant un élément de base, c'est évident en plus, qui permet de développer des politiques efficaces en matière de prévention, de traitement et d'accompagnement. La maîtrise passe par une bonne connaissance. Prenez des exemples simples, par exemple les blessés médulaires. On s'est pu se rendre compte qu'au lieu au début, il y avait des ceintures de sécurité qui n'étaient qu'à deux points ventrales. Ben, on s'est rendu compte que ça évitait un certain nombre de lésions. Par contre, ça augmentait les lésions qui étaient les lésions médulaires du rachis dorsolombaire et donc intérêt d'avoir des lésions, des points, des accroches trois points. C'est exactement le principe également de l'étude épidémiologique pour comprendre les causes de survenue des accidents vasculaires cérébraux et leur identification a permis de pouvoir identifier un certain nombre de facteurs de risque et essayer de les traiter. On ne peut pas donc, sans connaissance, pouvoir envisager premièrement une prévention, deuxièmement des traitements efficaces. La prévention des lésions acquises. Cette prévention est donc un axe essentiel puisqu'on est dans du domaine de l'acquis. En fait, elle agit sur deux niveaux. Premièrement, la prévention individuelle. C'est des choses simples, c'est l'hygiène de vie. On sait tous les effets négatifs de telle alimentation, du tabac, de l'alcool, mais également une prévention individuelle par rapport à ses propres activités, ses propres comportements. Le risque est plus grand en roulant à 200 qu'en roulant à 100, en faisant un certain nombre de sports à risque ou pas de sports à risque. La prévention, c'est également une prévention collective, et ce, dans plusieurs domaines. Prévention des accidents du travail, par exemple. Prévention des risques sanitaires. Regardez, la dernière année a été riche d'un certain nombre d'éléments en ce qui concerne les risques autour des infections nosocomiales à l'hôpital, et en ce qui concerne la prévention du risque sanitaire, l'exemple est la vache folle. Ou enfin, la prévention de l'environnement, et qui est prévention, exemple typique, c'est la prévention des accidents domestiques chez l'enfant. Cette prévention, base essentielle donc des handicaps acquis, va entraîner deux exigences. Premièrement, une responsabilité partagée, à la fois du citoyen, donc de chacun d'entre nous, au regard de sa propre situation, je peux créer, en fonction de ma prévention et de mon implication, mes propres ou pas lésions, où je peux les inciter, et surtout du citoyen au regard de sa propre de la situation des autres, et donc des risques qu'il peut engager pour les autres, mais également une responsabilité de la société, des politiques et des choix politiques. Enfin, la deuxième exigence, c'est la prise en compte de l'enjeu économique, de la prévention. Certes, la prévention coûte, elle nécessite des investissements, mais pour qu'elle soit acceptable, pour qu'elle soit correctement mise en œuvre, il faut accepter ces investissements, considérant que cet enjeu financier à court terme a forcément une productivité à long terme. Le traitement des lésions acquises. Le traitement des lésions acquises, en fait, lui, il va faire appel à toute la panoplie des possibilités du secteur sanitaire à l'heure actuelle. C'est à la fois les possibilités médicales, avec en particulier des traitements médicamenteux. Et je voudrais insister notamment sur la nécessité de développer une politique comme c'est engagé depuis quelques années en ce qui concerne la prise en charge des maladies rares, pour lesquelles, vous savez, ce sont les médicaments orphelins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui sont suffisamment atteints de ça pour dire qu'il faut qu'on développe les médicaments. On considère qu'il y a 5000 maladies orphelines à l'heure actuelle. D'où l'importance d'avoir des programmes qui permettent de développer des médicaments spécifiques pour ces maladies orphelines. C'est également toutes les possibilités des traitements chirurgicaux, multiples et variés, des possibilités de rééducation. Je vous ai mis un exemple là, parce que ça correspond à ma vie quotidienne, mais quelqu'un qui a une lésion à traumatisme crânien, il peut faire des grosses lésions, des constructions osseuses, des ostéomes, et bien ça va bloquer une articulation. C'est certain que si on n'enlève pas ce fragment osseux qui bloque l'articulation, la personne aura une incapacité importante en ce qui concerne ses possibilités de locomotion. Et donc cette maîtrise thérapeutique passe par un développement important en ce qui concerne les recherches fondamentales et les recherches cliniques. Et donc, à l'issue ces possibilités en ce qui concerne les maîtrises des lésions, dans un certain nombre de cas, donc on les aura totalement maîtrisées. Dans d'autres cas, malheureusement, la lésion aura une maîtrise qui est insuffisante et donc il va falloir s'intéresser à ce moment-là à la maîtrise des déficiences. La maîtrise des déficiences, en fait, elle, on va pouvoir agir sur trois types de niveaux. Premièrement, on va essayer de faire une compensation par le surentraînement. Là où les structures lésées sont remplacées par des éléments du système non lésés, dont le rendement peut être accru. En sachant que ça intervient dans le même type de fonction. Je prends un exemple très simple. Pour fléchir le coude, on a trois muscles. Si jamais il y a deux muscles qui disparaissent et il reste un muscle, eh bien, si je renforce ce muscle, je vais pouvoir continuer à garder une flexion correcte du coude et ne pas avoir un retentissement fonctionnel. La compensation également, à côté de la suppléance, peut se faire par le réentraînement ou la réorientation. Il s'agit d'utiliser alors des structures qui sont normalement dévolues à d'autres emplois que l'on peut orienter vers de nouvelles tâches. Ces réentraînements sont particulièrement utilisés pour les lésions centrales où les zones du cortex peuvent être utilisées pour progressivement commander une zone dont au départ on considère qu'elles n'y sont pas dévolues. Et ce, grâce à la notion de plasticité cérébrale. Là encore, il y a un certain nombre d'études qui ont montré qu'après un accident vasculaire cérébral, il arrive que des zones non détruites prennent progressivement le relais des zones lésées, même si elles sont situées dans l'autre hémisphère cérébral. Autrement dit, notre cerveau est un organe qui cesse de bouger suivant les stimulations. La meilleure connaissance du cerveau, là par exemple, c'est une IRM fonctionnelle, c'est une imagerie qui permet de montrer qu'il y a une zone qui a été sollicitée. Là, c'est partie d'une zone motrice. La meilleure connaissance du cerveau, les possibilités de réentraînement ou de réorientation permet donc d'envisager des compensations et de maîtriser certaines déficiences. C'est exemple, par exemple, la transposition sensorielle. Un sens étant totalement absent, la formation peut être amenée par un autre. Ce que je ne peux pas lire avec mes yeux sur un écran, je peux le lire avec mes doigts ou entendre. Je suis aphasique, mais je peux néanmoins apprendre à parler. Compensation de suppléance. Cette compensation, elle, par contre, elle va mettre en œuvre des nouvelles stratégies, faire autrement, sans ou avec des aides humaines ou instrumentales. La stratégie de suppléance, en fait, elle peut se faire à deux niveaux. Soit on est dans le domaine de la suppléance interne, on va faire une suppléance dans le corps, de la déficience, puisque ça touche l'organe, soit plutôt une suppléance externe. La suppléance interne, en fait, elle va avoir plusieurs possibilités, on va les revoir. Une suppléance qui peut être physiologique, une suppléance qui peut être prothétique ou qui peut être par neurostimulation. Les suppléances externes, donc c'est quelque chose qu'on va rajouter à l'extérieur, ça peut être les orthèses ou les prothèses, en sachant qu'il va y avoir une évolution manifestement très importante grâce à l'informatique de ces différents types de suppléances internes ou externes. Quelques exemples, les suppléances physiologiques. En fait, c'est utiliser des éléments qui persistent, qui eux ne sont pas lésés, on les modifie pour leur faire réaliser une nouvelle action qui a été déficitaire. Là, c'est un exemple, c'est un tendon. Eh ben, un tendon, il avait tendance de tirer uniquement d'un côté et d'emmener le pied de travers. Eh ben, je peux considérer que ce tendon, je peux soit le diviser, soit en prendre une partie ou totalement pour rééquilibrer son action. L'autre exemple, c'est la personne qui, par exemple, a une polio, qui a un pied qui traîne, parce que les tendons qui relèvent le pied ont disparu. Eh bien, si les tendons en arrière fonctionnent, je peux peut-être en prendre un pour le mettre en avant et permettre ainsi de pouvoir compenser cette déficience de telle façon que la personne, à ce moment-là, puisse avoir un pied qui se pose correctement à plat. À côté de ces déficiences, donc, on va modifier l'orientation ou le fonctionnement d'un élément physiologique. Il peut y avoir également les suppléances internes, c'est tout le domaine prothétique. Donc soit les prothèses qui sont les prothèses sensorielles, soit les prothèses articulaires. En fait, je vais suppléer, je vais changer l'élément qui est atteint par un élément artificiel. C'est ici, je reste dans le domaine de compétences que je connais bien, mais pareil, c'est une prothèse de hanche où il y avait une usure, et ben on a pu changer l'articulation de la hanche en mettant une prothèse de hanche. C'est l'autre exemple des prothèses cardiaques avec toute l'évolution en ce qui concerne les cœurs implantables artificiels. Enfin, dans les suppléances internes, c'est le domaine de la neurostimulation. Cette neurostimulation, en fait, elle a pour ambition de modifier ou de restaurer certaines fonctions par une activation séquentielle des structures nerveuses ou musculaires. C'est-à-dire qu'on va tout d'un coup essayer de se dire « je vais essayer de modifier les possibilités de commande directement en jouant sur le nerf ou sur le muscle ». Un certain nombre de démarches sont entrées dans la vie quotidienne. C'est par exemple les implants cochléaires qui vont pouvoir stimuler le nerf pour pouvoir essayer de pouvoir redonner une stimulation et donc la possibilité d'entendre. C'est exemple, par exemple, les stimulateurs dans les racines sacrées pour les gens qui ont des incontinences urinaires. On a pu montrer que quelqu'un qui avait des troubles urinaires, eh bien, si on va stimuler les racines sacrées, on est capable de pouvoir redonner une possibilité de continence urinaire. Un certain nombre de domaines, là encore, ont été d'actualité. C'est par exemple la possibilité du paraplégique de se mettre debout. Je pense que vous avez tous entendu ça dans les médias dans les 15 derniers jours. En fait, ça correspond à des maîtrises par une neurostimulation électrique fonctionnelle. En fait, elle passe par une stimulation directe au niveau de certains groupes musculaires qui permet ainsi de développer des fonctions. Donc c'est le programme Lève-toi et marche paraplégique, qui est un programme européen sur un certain nombre de centres, en particulier nos collègues de Montpellier qui sont très impliqués. En fait, on met un simulateur sous-cutané avec des petits fils électriques qui vont stimuler un certain nombre de groupes musculaires, environ une dizaine. Et puis, il y a un système de stimulation de contacteur et la personne, quand elle décide de pouvoir stimuler le muscle qui permet de se mettre debout, donc il faut pouvoir mettre la cuisse en extension, eh bien, je peux commander les muscles qui permettent de faire ce mouvement. Ce simulateur étant donc piloté par un programme informatique qui reçoit directement les commandes de la personne. Autre exemple, c'est le premier système de vision artificielle. Vous avez une caméra, c'est pour les non-voyants, une caméra miniature qui est au niveau des lunettes. Vous avez une lunette en fait avec une caméra qui diffuse des images qui sont traitées par ordinateur et qui stimulent des électrodes cérébrales qui sont disposées à la surface du cortex visuel. Celles-ci excitent les cellules corticales. Il s'agit certes d'une vision comme une vision normale, mais une vision qui permet quand même de définir des contours et des formes. Par ailleurs, il existe de nombreux projets, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'implants rétiniens et de stimulation directement également du nerf optique. Les stimulations externes, on a vu qu'elles pouvaient être de différents ordres. En particulier, les orthèses. Là, c'est rudimentaire, mais commençons par des choses simples, en fait. Les orthèses, c'est un dispositif qui va aider soit au fonctionnement d'un membre ou d'un organe gravement atteint, en pouvant le stabiliser. Là, c'est par exemple une orthèse au niveau d'un bras qui permet une stabilisation du bras. Vous pouvez avoir des orthèses pour ne pas stabiliser le tronc. C'est par exemple les corsets qu'on peut voir pour des gens qui ont des scolioses. Vous pouvez avoir des orthèses pour éviter que votre pied quitte traîne par terre. C'est par exemple ce qu'on appelle les releveurs du pied, etc. À l'inverse, également, des orthèses, les suppléances externes, en fait, ce sont les prothèses. C'est quelqu'un qui est amputé, eh bien, on va pouvoir lui remplacer son segment de membre qui a été amputé par un membre artificiel. En fait, l'évolution des prochaines années se fera de plus en plus vers une évolution intelligente de ces aides grâce à l'apport de l'informatique et qui permettra de pouvoir relier au mieux ces aides directement avec des commandes permettant à la personne d'éliminer et de maîtriser au maximum sa déficience. Au total, ces compensations doivent permettre de maîtriser totalement ou partiellement la déficience. Suivant l'importance de cette compensation, la déficience va entraîner donc ou non une incapacité. Et donc, maîtrise des incapacités. Si jamais il y a une incapacité, finalement, comment je vais pouvoir maîtriser les incapacités? Donc vous voyez déjà là, on est arrivé qu'aux incapacités, la grande variété des possibilités d'agir pour pouvoir maîtriser une situation qui peut amener à une situation de handicap. La maîtrise des incapacités, elle passe par l'élaboration d'aides pour réaliser des choses de la vie quotidienne permettant d'assurer son projet de vie, à la fois professionnel, social, familial, éducatif, tout en préservant une qualité de vie. On peut noter en fait deux grands domaines d'aide, soit les aides humaines, soit les aides techniques. Ces aides sont par nature complémentaires, elles sont propres à chaque individu et évoluent bien évidemment en fonction du temps et des situations. Il convient d'insister sur l'importance de l'évaluation des besoins et des aides. Comme on vient de dire qu'elles étaient spécifiques pour chaque individu en fonction de son projet ou de son environnement, il va falloir que cette évaluation, qui est la base même de la maîtrise, soit et s'appuie sur une expertise qui soit une expertise la plus performante possible. Celle-ci tend vers une approche qui soit le plus multidisciplinaire possible, impliquant à la fois les professionnels, exemple des médecins de rééducation, les psychologues, les ergothérapeutes, etc., mais aussi, bien sûr, les accompagnants, et s'appuyer également sur les choix, bien évidemment, de la personne. Et d'autre part, qui dit une expertise performante, disent d'avoir des systèmes de grilles d'évaluation, de protocoles qui permettent d'avoir des systèmes qui soient reproductibles. Il faut donc souligner l'importance de développement, parce que ça n'existe pas ou insuffisant à l'heure actuelle, de centres ressources, par département, qui permettent de proposer un guichet unique où les personnes qui ont des incapacités puissent avoir accès à la variété de ces aides techniques et au niveau desquelles on pourra faire des évaluations pour poser la bonne aide, soit humaine, soit la bonne aide technique. L'accès aux aides humaines, en fait, c'est un élément clé de la maîtrise des incapacités. Et je crois qu'il faut être clair, en aucun cas, la technique ne pourra jamais suppléer l'aide humaine. Elle ne fait qu'éventuellement modifier le champ de l'intervention de l'aide humaine. En fait, ces aides humaines, donc c'est un élément clé, la maîtrise des incapacités. Elle s'appuie bien évidemment sur différentes composantes de l'environnement, la famille, les bénévoles, les professionnels, de sortes de types auxiliaires de vie, aide-soignante, etc. En fait, l'enjeu sur les aides humaines se situe autour de deux niveaux. Premièrement, le développement du monde, et tout le monde convient qu'en matière de grands handicapés, on manque manifestement d'un certain nombre nombre de personnes se consacrant aux personnes handicapées, et bien sûr donc les conséquences économiques que ça représente, mais également de la capacité et des compétences des intervenants autour de la personne. L'accès et la responsabilité plus importante de ces intervenants est sûrement un élément important dans la maîtrise, dans l'amélioration de la qualité de l'autonomie des situations, des personnes en situation de handicap. Prenez un exemple, là encore simple. Les personnes qui avaient une trachéotomie, ça pose des problèmes pour avoir des aspirations. Jusqu'à maintenant, on avait dit que c'était uniquement les professionnels qui pouvaient faire ces aspirations. Ce qui a tendance à confiner les personnes handicapées, soit dans des institutions, soit à l'hôpital, ou qui posent d'énormes problèmes pour être chez elles. Eh bien, il a été décidé de considérer que l'environnement, les accompagnants, on pouvait très bien les former pour pouvoir agir de façon efficace pour faire les aspirations et de faire en sorte qu'une personne qui est trachéotomisée puisse quand même pouvoir partir en vacances, pouvoir un certain nombre d'activités à partir du moment où il y a des accompagnements qui ont été formés, d'où l'importance d'avoir une collaboration pour former et pour évaluer si ce qu'on met en place en termes de formation sont efficaces. À côté de l'aide, des aides humaines, les aides techniques. En fait, elles posent plusieurs questions sur lesquelles je voudrais insister car les aides techniques sont un des éléments également importants de la maîtrise. Premièrement, il y a un certain nombre de difficultés en ce qui concerne la connaissance des aides techniques, qui est en fait le premier accès aux aides techniques. En effet, les aides techniques sont souvent très dispersées, très variées, et sont issues d'initiatives très souvent individuelles. Et donc, il est très difficile d'avoir accès à l'ensemble de l'information de ces aides techniques. Et d'autre part, ces aides techniques sont développées par un certain nombre d'industriels, mais souvent sans relation avec le monde des handicaps, ce qui pose énormément de difficultés en ce qui concerne les analyses de besoins permettant de pouvoir développer un certain nombre de produits spécifiques. La maîtrise de cette information passe donc par la mise en place d'outils et de moyens d'information à la fois entre le monde des industriels et les utilisateurs pour identifier les besoins, mais également maîtriser cette information, c'est permettre aux personnes en situation de handicap qui présentent des incapacités d'avoir l'accès à la connaissance de l'ensemble des aides qui leur sont proposées. Il est certain que les nouvelles technologies de l'information, en particulier Internet, vont nous révolutionner, car ça va permettre à court terme de proposer de véritables bases de données permettant de pouvoir échanger les informations en ce qui concerne tout ce domaine des aides techniques. Et qu'à l'heure actuelle, il y a une première base de données qui vient d'être mise en place, qui permet de connaître toutes les aides techniques. Il est certain que c'est que le développement de ces sites Internet vont pouvoir avoir à la fois la connaissance, mais pouvoir même envisager d'un certain nombre de notions qu'on n'aurait jamais imaginées jusqu'à maintenant. C'est par exemple faire des achats groupés parce qu'on se rend compte qu'en lieu d'être tout seul dans son coin, être à plusieurs, ça permet à ce moment-là de pouvoir agir très efficacement sur les coûts. En effet, accéder au financement des aides techniques est une véritable difficulté. Et ce financement, en fait, il pose deux problèmes particuliers. Premièrement, la bonne prescription et la bonne utilisation des aides. La meilleure définition, l'analyse des besoins, la mise en place de structures mutualisées. Arrêtons d'avoir tout dans un coin, partageons éventuellement les aides puisqu'on sait que ces incapacités changent dans le temps. Le développement des possibilités de location sont indispensables pour pouvoir permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux aides techniques, tout en gardant un esprit bien évidemment de solidarité et d'éviter les prescriptions inutiles. Une évolution des coûts des aides techniques passera également inéluctablement vers le développement d'une industrialisation de ces aides techniques, mais surtout par la possibilité de pouvoir offrir le champ de ces aides techniques, arrêtant de considérer que les aides techniques sont uniquement pour les gens handicapés. Non, c'est pour les gens qui sont et les personnes qui se retrouvent à un moment donné en une situation de gêne. L'exemple typique, c'est la personne qui a une arthrose de hanche. Eh bien, quand on a une arthrose de hanche, à un moment donné, on a du mal à marcher et on a besoin d'aide technique. Ce n'est pas pour ça qu'on va stigmatiser cette personne comme étant une personne handicapée. Ce champ des aides techniques, il est excessivement vaste. Il est très vaste. En fait, il y a des aides techniques très simples et il y a des aides techniques très sophistiquées. Vous voyez une liste d'aides techniques sophistiquées, je vais revenir sur un certain nombre d'aspects, mais les fauteuils roulants, toute la notion des contrôles d'environnement, la téléassistance, tout ce qu'on appelle les télétests de communication et ce qui va permettre d'avoir des systèmes de commande, tout ce qui est du domaine de la robotique ou de l'informatique. Quelques exemples d'aides techniques, des aides techniques simples, ce sont en fait souvent des adaptations, souvent simples de la vie quotidienne, qui peuvent permettre à quelqu'un qui ne pourrait pas écrire, de pouvoir quand même écrire parce qu'on aura fait ces aides techniques. La maîtrise passe souvent par des choses simples. Les aides techniques sophistiquées, par contre, eh bien, je vous montrerai par exemple quelques images, quelques notions de robotique. parce qu'on en parle beaucoup, ce sont des produits à la mode. En fait, il y a peu de produits. Ce sont souvent des produits qui sont uniquement à l'état de prototype. On peut distinguer deux types de produits. Vous avez des produits de type de station de travail, qui sont de véritables stations de travail que vous commandez avec un robot qui peut vous faire beaucoup de choses. Ou alors, vous avez des systèmes qui sont embarqués. C'est par exemple une autre type de station de travail là, aux USA. Vous voyez la complexité. C'est sûr que ce n'est pas accessible pour tout le monde. Et d'autre part, vous avez des systèmes de robots. En fait, ce sont des systèmes de robots qui sont directement mis sur les fauteuils, qu'on arrive à commander et qui vous permettent de faire un certain nombre d'actes. On en parle beaucoup. Il faut savoir que des robots comme ça, il y en a environ seulement 150 installés en Europe. La domotique, en fait, ça passe par tout ce qui est le domaine de la conception des systèmes destinés à l'environnement domestique, ainsi que toutes les solutions avancées pour pouvoir suivre à distance les personnes, grâce particulière à la téléassistance. En fait, tout le développement des nouvelles technologies va permettre de pouvoir probablement évoluer vers des systèmes d'automatique avec des systèmes de commandes simples qui nous permettront de réaliser les fonctions de la vie quotidienne. Je prends une fonction de la vie quotidienne qui commence chez soi, mais qui commence à l'hôpital. Il est inacceptable à l'heure actuelle que quelqu'un à l'hôpital qui vienne ne puisse pas, sous prétexte qu'il est tétraplégique ou qu'il ne peut pas utiliser ses deux bras, de pouvoir continuer à téléphoner à sa petite amie, de pouvoir allumer la lumière, de pouvoir appuyer sur l'appel malade. Enfin, l'informatique, autre domaine des aides techniques. En fait, il y a trois niveaux d'intervention au niveau de l'informatique. Il y a ce qu'on appelle les suppléances par neuromimétisme. En fait, cette démarche, on l'a évoqué un peu tout à l'heure sur les suppléances internes, est essentiellement prothétique et porte ses fruits. En fait, c'est toutes les aides, l'évolution donc des aides techniques industrialisées avec une intervention forte de l'informatique. C'est par exemple les membres industriels. Soit l'autre niveau d'intervention de l'informatique, ce sont tout ce qu'on appelle du domaine de la transposition sensorielle. Grâce à l'informatique, je vais pouvoir avoir une transposition des sens. Exemple, c'est audition-vision, lecture-toucher. Prenez par exemple l'informatique et toutes les possibilités d'ouverture en ce qui concerne le domaine du braille et les claviers qui sont les claviers adaptés et l'accès est donc tout le monde de la communication. Enfin, les suppléances fonctionnelles, un sens n'est que partiellement présent. On peut alors présenter l'information sous une forme adéquate, compte tenu de la capacité affaiblie du traitement de l'information. Quelqu'un qui est malvoyant, c'est sûr que si on est capable de pouvoir avoir des écrans grands, on va donner la possibilité de pouvoir avoir accès de façon beaucoup plus importante aux possibilités de communication. C'est tout le domaine des zooms électroniques, des téléagrandisseurs, etc. Cependant, tout ce domaine des aides passe par la maîtrise des commandes, qui est un des éléments clés, car pour pouvoir commander, il faut avoir un certain nombre de possibilités. En fait, souvent, on l'a bien vu, elles sont diminuées. Et donc, c'est le problème d'évolution des commandes. Soit les commandes, évolution des commandes grâce aux commandes par le regard. Un certain nombre de gens n'ont seul le regard pour pouvoir commander un certain nombre de matériels. C'est ce qu'on appelle par exemple les personnes qui vont pouvoir écrire avec leurs yeux. C'est tout le projet Delta Vision, il y a un projet important dans ce sens. Soit ça peut être la commande par la pensée. Un certain nombre de tests ont montré qu'il était possible, en utilisant le train d'ondes lentes, on a un certain nombre d'ondes lentes qui sont émises par le cerveau, en les amplifiant, de permettre à ce moment-là d'entraîner un certain nombre de commandes. Mais plus simplement, c'est toutes les possibilités de commandes par la voix, toutes les ce qu'on appelle les synthèses vocales. Je peux, en parlant, décider d'éteindre la lumière. Et on voit bien, Dumarc, que dans ce domaine-là, un certain nombre de ces évolutions de commandes qui sont à l'heure actuelle dans le domaine du grand public vont pouvoir être proposées aux handicapés pour pouvoir avoir une maîtrise beaucoup plus importante. Enfin, il faudrait insister sur un point qui est les conséquences en ce qui concerne les aides techniques sur les rapports sociaux. En effet, le développement des aides techniques entraîne souvent une modification des rapports sociaux qu'il convient de prendre en compte parallèlement au développement des aides techniques. En effet, l'amélioration de l'autonomie, la possibilité de maîtriser ses capacités, la possibilité de communiquer, permet aux personnes handicapées d'augmenter leurs possibilités d'intégration, d'expression et de pouvoir affirmer quels étaient leurs propres projets et ainsi les remettre au centre de leurs propres projets qui, dans certains cas, peut être en opposition avec le projet qu'avait prévu la famille ou les professionnels. Combien il y a d'histoires où un certain nombre de personnes ne pouvaient pas s'exprimer parce qu'ils n'avaient aucune possibilité d'écrire ou une possibilité de parler. Des aides techniques leur ont permis, grâce à la commande visuelle, de pouvoir faire des phrases. Et en fait, elles expriment des choses qui ne sont pas du tout ce qu'on pensait, ce qu'elles souhaitaient, ni la famille, ni les professionnels. Et donc, il ne faut pas sous-estimer que ces aides techniques, elles ont besoin d'un accompagnement. Ce ne sont pas un système qu'on parachute comme ça, sans avoir créé cet accompagnement. Il peut y avoir des décalages qui soient absolument considérables. En effet, les aides techniques peuvent remettre en cause le projet de vie construit pour la personne handicapée par l'environnement familial, éducatif ou professionnel. À côté du maîtrise donc des incapacités, dernier domaine, comment peut-on maîtriser le désavantage social? Donc ce désavantage social, qui est donc l'expression de cette incapacité dans un environnement, en fait, on va pouvoir agir sur deux niveaux. Premièrement, agir sur l'environnement de l'individu et donc sur la société. Deuxième possibilité, c'est agir sur la personne elle-même au regard de sa propre vision qu'elle peut avoir de son incapacité et surtout de ses capacités. L'environnement et le regard de la société. Il convient de distinguer plusieurs éléments. Premièrement, le regard proprement dit de la société. Et je pense que c'est un élément essentiel pour l'évolution de la maîtrise. En effet, l'évolution du comportement collectif au regard de la personne handicapée est un élément majeur. Car, malheureusement, l'évolution des valeurs vers le bien portant, le bien productif, le beau, a tendance progressivement à orienter vers une logique normative, n'acceptant pas la différence et ne reconnaissant pas, à travers la différence, toutes les capacités que peut apporter un individu au groupe, quelle que soit sa situation. Cette non-reconnaissance, par nature, va entraîner et va favoriser la marginalisation. Il est donc important d'avoir conscience que la personne handicapée est d'abord une personne avant d'être une personne handicapée. La maîtrise de ces regards passe donc par une volonté collective, qu'elle soit politique, qu'elle soit institutionnelle, du secteur sanitaire, du secteur médico-social, mais également forcément le comportement individuel de chacun vis-à-vis du regard qu'on peut avoir sur une personne handicapée. Enfin, bien sûr, à côté de cet aspect de comportement, il y a tout le domaine de la maîtrise des situations de handicap dans la société grâce à des maîtrises essentiellement autour d'aspects techniques. C'est l'exemple, penser à faire une architecture pour pouvoir accéder dans des locaux. Et donc, ça va concerner bien évidemment tous les domaines de désavantages qu'on a pu voir et toutes les possibilités et les solutions concrètes, techniques qu'on peut proposer sur l'amélioration de l'orientation, sur la dépendance, sur les problèmes de dépendance physique, sur la mobilité des lieux, sur l'occupation avec la possibilité d'avoir accès aux activités culturelles ou aux activités sportives. Combien à l'heure actuelle de personnes handicapées peuvent aller dans un musée et peuvent pouvoir accéder à la vision d'un tableau. Sur l'intégration sociale, avec en particulier un enjeu considérable qui est l'intégration scolaire. Sur l'insertion professionnelle, c'est par exemple toutes les politiques qu'on peut avoir en matière d'aménagement de postes de travail et donc la maîtrise de la possibilité d'accéder au travail. Il ressort de cette liste une importance donc considérable de la variété des situations sur lesquelles il convient d'agir pour éviter ce désavantage. Cela témoigne bien de la nécessité d'une préoccupation collective. Il faut certes des règles. Le problème d'accessibilité nécessite forcément un certain nombre de réglementations au niveau national, mais également d'une préoccupation individuelle. Si un architecte, quand il bâtit, ne prend pas en compte très en amont les problèmes de l'accessibilité, quelles que soient les réglementations, eh bien on sait qu'on aura des locaux qui seront des locaux non ergonomiques pour une personne qui se retrouve devant une incapacité, soit une incapacité motrice, soit une incapacité autour d'une déficience sensorielle. Au total, la reconnaissance de la citoyenneté est l'enjeu de la maîtrise sociale des handicaps. La reconnaissance de la personne en situation de handicap comme citoyenne à part entière doit permettre, comme cela Dumarc est rappelé, et il faudrait le rappeler bien souvent dans la Charte des droits de l'homme ou dans la Charte sur les personnes handicapées européennes, que tout citoyen, quelle que soit sa spécificité, doit être un acteur de la vie sociale, familiale, professionnelle, culturelle, sportive, etc. Reconnaître cela, c'est donc dépasser ainsi les représentations qui conduisent à assimiler les personnes handicapées à une personne peu performante. La réelle maîtrise des désavantages sociaux passe donc par une prise en compte très en amont des différentes incapacités qui peuvent exister. Cependant, il faut noter qu'apparaissent des limites à l'intégration. Il faut avoir le courage de le dire. À l'extrême, l'intégration peut devenir un alibi, comme si la personne présentant des incapacités devait être intégrée à tout prix, en la confinant dans un environnement spécifique, sans les montrer, en risquant de maintenir ainsi les personnes handicapées dans une minorité. De même, à l'inverse, il y a un réel danger qui pourrait pénaliser les valides en les contraignant à vivre dans un milieu adapté pour tout type de handicap. On peut imaginer que certaines adaptations, prenez la hauteur des plans de travail par exemple, puissent avoir des conséquences négatives pour les personnes qui ne présenteraient pas une incapacité à qui on imposerait forcément un niveau d'hauteur de plan de travail uniquement pour des gens de petite taille. Cette certaine forme d'acharnement thérapeutique, d'intégration à tout prix, serait finalement préjudiciable à tous. Donc l'intégration impose donc de trouver un juste milieu entre l'exclusion et la discrimination positive. Enfin, autre élément très important du maîtrise du désavantage, c'est le problème du vécu et la perception individuelle de la personne présentant une incapacité. C'est du domaine de l'élément subjectif, de la perception individuelle. Celle-ci est dépendante du regard à la fois des autres et à la fois du regard, de son propre regard vis-à-vis de ses capacités à promouvoir toutes ces possibilités. Le regard des autres, celui-ci agit très directement, bien évidemment, et on le sait tous, en positif ou en négatif. Mais il faut être conscient que la différence reste toujours attracteur de regards. Regards qui touchent à la dignité de l'homme. Ces regards, vous savez, ces regards fuyants, ces regards qui sont des regards d'évitement, des regards de curiosité, des regards de communication excessive, etc. Ces regards atténuent ou affirment la limitation des possibilités. Les mots, les attitudes, le regard peuvent accentuer considérablement le ressenti que peut avoir une personne présentant des incapacités et qui cherche auprès des autres non pas un rejet, une compassion, mais la reconnaissance de ses propres capacités à être à côté et avec les autres. Le regard peut donc orienter très directement la personne vers une incapacité ou vers une limitation de ses possibilités, une marginalisation. Et puis également, il y a les espèces de prérequis qu'on peut avoir les uns et les autres. On a fait des études sociologiques à l'hôpital, par exemple, très intéressantes, qui ont montré que les professionnels, nous avions notre propre vision personnelle des possibilités de telle ou telle personne handicapée, et que ce qu'on mettait en œuvre avait tendance à orienter la personne handicapée vers tel ou tel type de vie, puisqu'on avait, nous, professionnels, on avait un regard qui, souvent, du marque, est très dépendant des différents types de professionnels et des individus. Mais d'autres éléments également interviennent dans les capacités de la personne à prendre en charge ses incapacités. Ce sont ces éléments, c'est sa capacité propre personnelle. Et ça, il faut insister sur deux éléments qui sont absolument essentiels. Premièrement, l'annonce du handicap, l'annonce de la mauvaise nouvelle, qui agit très directement sur ses capacités à pouvoir assumer ou pas la déficience. En effet, il s'agit pour les professionnels de santé d'un enjeu considérable. Les circonstances d'apparition et d'évolution induisent directement la prise de conscience de la réalité des faits pour chaque individu et donc surtout l'acceptation individuelle, quel que soit le type de handicap, qu'il s'agisse d'un handicap congénital ou qu'il s'agisse d'un handicap acquis. Enfin, ses capacités à pouvoir surmonter, donc son propre regard, dépend également d'une notion qu'on pourrait appeler l'acharnement de compensation. Les actions pour maîtriser le handicap doivent être les moins contraignantes possibles pour l'individu, faute de quoi elles permettraient certes de diminuer l'incapacité, mais compliqueraient aussi leur apprentissage. D'ailleurs, leur lourdeur en raison des conséquences physiques, psychologiques, compromettrait leur mise en œuvre. Là encore, reprenons dans le secteur du moteur, si c'est pour avoir des techniques très sophistiquées, très lourdes, et qui permettent effectivement de faire quelques pas, ben vous voyez des gens qui disent non, ça n'a aucun intérêt. C'est lourd physiquement et en plus psychologiquement, regardez comment ça me montre, ça me pointe du doigt. Les solutions proposées doivent donc être acceptables pour la personne en situation de handicap. Elles doivent être le plus simple fonctionnellement, les plus conformes aux cultures et aux comportements individuels et collectifs. Il y a des cultures où il n'est pas acceptable d'avoir des aides techniques, par exemple. Et enfin, elles doivent être les plus génératrices d'indépendance dans toutes ces dimensions physiques, mentales et relationnelles. Enfin, la maîtrise du handicap, et c'est un élément essentiel, est une maîtrise qui doit se faire dans l'évolution, par rapport à l'évolution du handicap dans le temps. La complexité, le nombre des éléments intervenant dans les différentes étapes de la conception du handicap explique donc la variabilité dans le temps. Il est donc indispensable pour maîtriser l'évolution des handicaps de pouvoir modifier très en amont les situations handicapantes et pouvoir ainsi éviter de voir apparaître des notions de surhandicap. En effet, il convient de prendre en compte un certain nombre d'étapes sur lesquelles je voudrais insister. Premièrement, prendre en compte les grandes étapes de changement. Celles-ci est fondée prioritairement, à l'heure actuelle, sur les modifications de statut de la personne handicapée. C'est par exemple la prise en compte du passage enfant-adulte. Vous savez que les acteurs qui interviennent, que ce soit les médecins, que ce soit les acteurs du secteur éducatif, on passe au secteur professionnel, etc., sont variés. Et s'il n'y a pas une continuité de prise en charge, il va y avoir une rupture. Et on sait que les ruptures sont des sources majeures d'aggravation des situations de handicap. Au même type, la modification du corps et du psychique de l'adolescent doit également être prise en compte de façon importante dans cette continuité entre le passage enfant-adulte. Autre exemple, c'est le vieillissement de la personne handicapée. Tous les débats à l'heure actuelle, est-ce que la personne handicapée, elle devient vieux ? Est-ce que le vieux est une personne handicapée ? Il est évident que si on ne prend pas en compte les deux dimensions, à la fois de la personne en tant qu'handicapée, mais à la fois la personne en tant que personne vieillissante, on est sur un faux débat avec des solutions qui sont des solutions qui ne sont pas acceptables. Et un travail reste considérable, à mon sens, dans ce domaine. domaine-là pour assurer une maîtrise qui soit une maîtrise correcte de cette maîtrise de rupture dans le temps. Enfin, il convient également d'insister sur la notion du suivi régulier. L'objectif est de permettre à période régulière, sur des aspects bien sûr volontaires, de proposer à des personnes handicapées de faire le point sur leur situation médico-sociale et professionnelle. En gros, pour les enfants, les situations sont acceptables, à part quelques cas particuliers. Par contre, pour la majorité des personnes adultes, quel que soit le type de handicap, ces personnes ne sont pas suivies, des systèmes ne sont pas proposés, là encore dans une logique de volontariat et bien sûr facultative. Et donc on voit apparaître des gens qui reconsultent souvent dans des situations sociales d'exclusion ou avec des apparitions de surhandicap majeurs, surajoutés qu'on aurait pu prévenir bien en avant. Et donc, il y a des conséquences qui sont des conséquences sanitaires, sociales de ces aggravations et qui entraînent de véritables ruptures souvent dans leur autonomie. Alors que ce serait si simple de pouvoir les maîtriser en pouvant suivre régulièrement les personnes en situation de handicap, ou en tout cas leur proposer, là encore, dans une vision forcément pluridisciplinaire. En effet, la maîtrise passe forcément par deux exigences. Avoir une vision de la maîtrise du handicap, ça impose forcément une réflexion pluridisciplinaire. Ça ne se conçoit que grâce à une mise en cohérence, en réseau, de la variété des acteurs qui interviennent, qu'ils soient du milieu sanitaire, médico-social, éducatif ou social proprement dit. Le cloisonnement qui a prévalu historiquement depuis une vingtaine ou une trentaine de liens n'a plus lieu d'être. Seule une approche pluridisciplinaire, pluristructurelle, doit permettre de répondre au mieux aux besoins spécifiques d'une personne handicapée à un moment donné par rapport à son besoin propre. La maîtrise du handicap passe donc par une organisation coordonnée autour de la personne handicapée et non par la succession, souvent non organisée, sans continuité d'information, sans cohérence de continuité du projet. Enfin, l'autre exigence par la reproductibilité de nos évaluations. En effet, l'acceptation par l'ensemble des professionnels qui interviennent d'évaluer leurs pratiques autour des critères de qualité de vie est indispensable. En effet, seuls ces critères permettent d'apprécier les résultats et les maîtrises et nos capacités à maîtriser ou pas les handicaps. En effet, l'objectif final, c'est le projet de vie. Celui-ci doit donc pouvoir s'exprimer à travers une qualité de vie. L'ensemble des actions menées doivent donc tendre vers une amélioration de la qualité de vie et donc la capacité pour l'ensemble des acteurs de pouvoir évaluer leurs résultats autour de cet objectif. En sachant que la notion de qualité de vie est propre à chaque personne et l'objectif c'est d'avoir des évaluations qui puissent être reproductibles dans le temps pour chaque personne, il est évident qu'il n'y a pas une logique normative de qualité de vie pour un groupe, mais par contre une possibilité d'évaluation pour chaque individu. En conclusion, la maîtrise du handicap, c'est évident que c'est un enjeu de société et non pas de telle ou telle catégorie professionnelle. En effet, la qualité et la valeur d'une société s'expriment en plus par rapport à ses capacités à accepter la différence et à mettre en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour accepter cette différence. La maîtrise du handicap passe aussi donc par le maîtrise du regard de chacun d'entre nous et de notre implication vis-à-vis des personnes dites handicapées. Cette maîtrise du handicap, certes, acceptons-le, ça génère des coûts, sachons les prendre en charge. Elle s'appuiera en fait finalement sur notre capacité à écouter les désirs des personnes et leur permettre de réaliser leur projet de vie comme tout citoyen à part entière. Je vous remercie.
Alors, question tout de suite. Oui, ici, madame.
Il y a des exemples historiques, par exemple pour le handicap moteur, Toulouse-Lautrec, qui a compensé, entre guillemets, par sa peinture, Van Gogh, Kafka, etc. Est-ce que vous pourriez dire un mot là-dessus, c'est-à-dire l'autocompensation, finalement ? Et deuxièmement, étant donné le caractère multifactoriel du handicap, bien souvent, comme vous l'avez souligné, est-ce qu'il n'est pas quasiment impossible de donner des scores ?
Vous pouvez préciser la notion de score ?
La notion de score, c'est-à-dire l'évaluation par chiffre d'un état d'handicapé.
C'est ce que je disais à la fin. Je pense que c'est très difficile d'avoir une évaluation qui se voudrait normative, permettant de rentrer dans des cases. Par contre, il faut qu'on ait des systèmes d'évaluation qui permettent de suivre une personne et permettre de se dire, finalement, les différentes solutions qu'on propose, est-ce qu'elles sont satisfaisantes pour telle ou telle personne, et est-ce que les évaluations successives permettent de montrer ou pas s'il y a une amélioration. Et je suis d'accord avec vous qu'on ne rentrera pas dans une espèce de score qui serait des scores collectifs où on mettrait dans des grandes cases. Que toute la réflexion autour des évaluations doit permettre de pouvoir apprécier ou pas si on est capable d'améliorer la situation d'un individu. Et donc c'est la reproductibilité des scores par rapport à chaque individu qui me paraît important. En ce qui concerne les compensations, je suis d'accord avec vous, il y a de nombreux exemples historiques et on sait combien les gens malvoyants ont une capacité de l'ouïe beaucoup plus développée, ont une capacité par exemple autour de l'orientation de l'ouïe ou une capacité du toucher. Prenez un exemple, c'est le métier des kinésithérapeutes. Les kinésithérapeutes malvoyants sont fréquents dans les hôpitaux et tout le monde convient, les malades convient, que se faire traiter par un masseur kinésithérapeute aveugle, il y a une qualité de relation et de doigté et de manipulation des membres qui est tout à fait exceptionnelle.
Vous avez évoqué au début de votre propos le travail actuel de révision de la classification internationale des handicaps. Je voudrais savoir si vous pouvez nous dire dans quel sens va cette révision et si ça doit aboutir à un document et quand.
Il y a un certain nombre de... Ça aboutira sûrement à un document, si ce n'est que c'est finalement très compliqué parce qu'on se rend bien compte qu'il y a de multiples facteurs qui interviennent. L'élément qui essaye d'intervenir, en fait, c'est un peu cette notion de subjectivité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on décrit la notion lésion, déficience, incapacité, c'est assez normatif. Et on n'y met pas l'élément clé, finalement, qui est, sur lequel j'insistais à la fin, qui est la capacité individuelle à pouvoir gérer, surmonter, accepter, etc. Donc cette notion de subjectivité, forcément une notion qui est en train, à l'heure actuelle, d'être prise en compte. Mais il fallait probablement passer par cette première phase qui a permis de rendre les choses lisibles, compréhensibles et pouvoir déterminer où est-ce qu'on pouvait agir.
Oui, bonjour docteur. Je suis désolé, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas remis en place M. Michaud quand il a parlé. Hélas, vous connaissez hélas l'hôpital Raymond Poincaré. Moi, je dirais, on ne peut connaître Garches que par les qualités des soins à l'hôpital Raymond Poincaré.
Merci, merci.
Bon, c'est donc il n'y a pas de hélas. Je dirais que le monde, écoutez, monsieur Michaud, les handicapés, il ne faut pas les stocker,
Non, mais je pense que monsieur Michaud avait une vision très positive bon. Et il s'est battu pour qu'il y ait une.
Voilà. Bon, et ma question porterait sur un aspect que vous avez abordé, mais il y a la capacité, il faut redonner le moral aux personnes handicapées pour leur donner la volonté de vivre, parce que les handicapés, ils ont un truc qu'on n'a pas, nous. Bon, moi, j'ai plus. Hein. C'est la capacité d'avoir envie de vivre. Et j'ai jamais vu un truc aussi extraordinaire que l'envie de vivre avec des fonctions motrices relativement réduites. Hein. À cet égard, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me donner ou nous donner le numéro de téléphone du club des loisirs de Garches pour qu'on puisse se proposer pour tous les mardis soirs, je crois me souvenir. Se proposer pour aller emmener les handicapés, les paraplégiques, etc., au cinéma, par exemple.
Je ne peux pas vous donner le numéro comme ça. Le club.
Téléphone de
non,
l'hôpital.
Non, mais j'ai le numéro de l'hôpital. Je peux vous le donner. C'est le 01 47 10 79 00.
01 47 10
79 00. Et effectivement, le club de loisirs, en fait, est une activité tout à fait importante qui permet, effectivement, de pouvoir proposer aux personnes handicapées pendant la période d'hospitalisation de pouvoir avoir un certain nombre d'activités et sortir des murs de l'hôpital, ce qui est un élément tout à fait clé. Dans la rééducation, on a bien montré que le moral est un des facteurs de la réussite ou pas de la rééducation et des capacités qu'on peut avoir à accepter sa rééducation. Il y a monsieur...
Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'Internet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Par exemple, est-ce qu'il existe des modèles urbains reproductibles sur les bases de données d'Internet que vous pourriez nous
faire connaître? En fait, sur Internet, le chantier s'ouvre de façon importante. Il y a une volonté, par exemple, de gros groupes industriels du domaine de l'informatique qui réfléchissent à l'heure actuelle collectivement pour développer un portail handicap qui permettrait d'avoir l'ensemble des informations à la fois dans tous les domaines de services, d'accessibilité, de pouvoir avoir la connaissance des aides techniques, des achats en ligne, etc., etc. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a deux niveaux au niveau d'Internet. Chaque structure effectivement associative ou secteur a développé en fait son site. Et on le voit, il y a une exposition, un développement important. Mais parallèlement à ça, il y a une volonté d'essayer d'organiser pour pouvoir rendre le plus possible la bonne utilisation de l'ensemble de ces informations dans Internet. Le, le, l'élément le plus important, j'évoquais tout à l'heure, par exemple, c'est très concret, c'est le site Internet en ce qui concerne les aides techniques, où à l'heure actuelle, vous avez finalement la possibilité d'avoir accès sur l'ensemble des informations sur les aides techniques. Ce qui est intéressant, c'est que ce site est élaboré avec de multiples professionnels en France entière. C'est-à-dire que cette nouvelle technologie, en plus, un élément important, c'est qu'elle évite que chacun reste dans son coin. Et je pense que vraiment, la prise en charge des personnes handicapées, dans beaucoup de domaines, montre bien qu'il faut chasser en meute, comme on dit. On ne peut pas faire seul, ça n'a pas de sens de faire seul, il faut faire ensemble. Et pour faire ensemble, ben, il faut arriver à travailler et à pouvoir se filer ces informations, enfin à communiquer dans le sens le plus noble du terme.
Oui, en fait, ce n'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur le fait du regard de l'autre, qui est pour moi très très important, je suis même handicapée. Et en fait, c'est aussi se dire que de ne pas éluder les questions. Je vois beaucoup, beaucoup de gens, je vois beaucoup d'enfants me regarder marcher, parce que j'ai une démarche particulière, et les parents n'osent pas répondre à la question de l'enfant, mais qu'est-ce qu'elle a la dame ? Les parents sont gênés face à ce type de questions, alors qu'un enfant, oui, la dame est handicapée, elle est handicapée, c'est un fait, c'est comme ça. Et l'enfant apprendra beaucoup plus facilement à intégrer ces personnes anormales ou différentes de la normalité que d'éluder les questions, en fait. Voilà.
Attendez, je veux juste, excusez-moi, mais par rapport à ce que vous dites, je pense qu'on aura gagné. Parce que la sémiologie est importante. Quand les parents n'iront plus à leur enfant, regarde, il est handicapé, regarde, la personne est handicapée, mais regarde, elle a du mal à marcher. C'est complètement différent, parce que franchement, c'est pas parce qu'on a du mal à marcher qu'on est handicapé. Je reste convaincu que notre stigmatisation permanente est dantesque. Je rêve un jour où les publicitaires acceptent de faire de la publicité pour des vêtements, pas toujours dans la norme la plus idéale de la femme la plus absolue.
Oui. Merci. Déjà, je voulais remercier M. Philippe de Normandie parce que faisant partie du CNAM et de la réinsertion des personnes handicapées, je trouve que vous avez merveilleusement bien parlé. Donc déjà, je vous remercie pour eux parce que vous avez vraiment parlé de tous les problèmes, du problème du droit à la vie, de la formation, du regard des autres. Enfin, tout y est passé jusqu'à toutes les aides qui étaient possibles. Donc vraiment, ça me fait très plaisir. Maintenant, je vais être un peu crue dans ma question. C'est que c'est vrai d'un côté, et moi, c'est une question que je me pose, c'est que d'un côté, vous avez justement ce que vous avez parlé, cette tendance un petit peu... Moi, j'aime pas le terme eugénisme parce que c'est un petit peu compliqué. Et en même temps, vous avez des gens qui travaillent aux aides techniques. Et finalement, quelque part, c'est un marché. Et parce qu'il faut, je crois qu'il faut voir les choses aussi d'un point de vue un peu économique et mondialiste. Ça reste un marché avec des capitaux et qui sont pas négligeables. On sait aujourd'hui que ce monde, enfin ces chercheurs, tous ceux qui travaillent justement à la recherche, tout ça. Si demain ils ont plus, parce que finalement les personnes handicapées, excusez-moi, c'est un peu leur manne. Donc si demain, moi j'aimerais un petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La question c'est qu'est-ce qui va advenir, parce que vous parlez de la maîtrise des handicapés, mais qu'est-ce qui va advenir dans le temps si d'un côté il n'y a plus l'offre et la demande?
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Non.
Oui, je vois ce que...
C'est très restrictif, mais je crois qu'il faut voir un petit peu les choses des fois face par rapport à la société actuelle. Merci beaucoup. Oui.
Je pense qu'on peut aborder votre question différemment. C'est-à-dire que si on réfléchit sur toutes les équipes qui fonctionnent dans ce domaine-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fromage où on se dirait attention, on risquerait de me prendre une part ou de grignoter. En fait, on se rend compte que quand on aborde ces sujets, on ouvre, plus on travaille sur la maîtrise des handicaps dans le domaine des lésions, on se rend compte qu'on ouvre d'autres champs et que ce qu'on est en train de faire pour des personnes dites handicapées serve à beaucoup d'autres personnes. Regardez l'extraordinaire travail qu'a fait l'AFM sur les possibilités de connaître le génome. Au départ, c'était pour les personnes handicapées. On se rend compte que ça a de l'intérêt pour beaucoup d'autres domaines qu'uniquement la personne dite handicapée au départ. Donc je pense que plus on travaille dans ce domaine-là, plus au contraire on ouvre d'autres champs. Et puis, dernier point, d'autres points par rapport à ce que vous dites sur l'aspect économique. Moi, je rêve qu'une fois pour toutes, on considère que ce secteur est un secteur marchand dans le sens qui commence à intéresser les industriels. Je trouve complètement inacceptable à l'heure actuelle que quelqu'un qui est malvoyant pour avoir un outil pour travailler sur l'ordinateur, il va avoir une table qui va lui coûter 120 ou 150 000 francs, qui bien sûr ne sera pas compatible. Alors que si on avait utilisé, si on avait industrialisé ce système, et non plus du bricolage, avec tout le respect que j'ai pour la personne qui fait ça dans son petit coin, on permettrait aux gens d'accéder à des prix tout à fait normaux et avec une intégration bien en amont. Donc je crois que le vrai problème, c'est en même temps au niveau des industriels, c'est reconnaître que le monde de l'incapacité, plus que du handicap, c'est un marché. Il y a un exemple très typique, c'est par exemple l'automobile. Jusqu'à maintenant, pour avoir une voiture, c'est forcément des constructeurs. Vous avez quelques-uns qui faisaient ça, mais de façon PME, pas du tout industrielle, pas du tout industrialisée, avec tout ce que ça comporte comme difficulté d'y avoir accès et comme coût. Vous prenez, depuis quelques années, quelques grands groupes ont intégré dans leur chaîne de fabrication la possibilité de prendre en compte des gens qui présentent des incapacités avec les adaptations nécessaires. Ça a permis de rendre beaucoup plus accessible à des prix qui sont beaucoup plus raisonnables. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir honte de dire que le monde du handicap ne doit pas avoir de problème avec l'argent. Ce n'est pas pour ça que je dis qu'il faut faire de l'argent avec du handicap, dans le mauvais sens du terme, mais c'est un secteur dans lequel il est normal, au niveau par exemple des aides, eh bien, que ça rende un système marchand clair, et plus il sera ouvert, plus on va pouvoir envisager avec des collaborations avec des industriels, de permettre aux gens d'avoir accès à un certain nombre de choses que l'on ne peut pas avoir, qu'ils ne peuvent pas avoir aujourd'hui, alors qu'on pourrait régler tellement de solutions.
Oui, bonjour. Je pense qu'il est particulièrement choquant de constater que des handicapés moteurs ou non-voyants se font aider dans leur vie quotidienne par des chiens dressés. Ainsi, on remplace l'aide humaine par un semblant d'aide animale à celui ou à celle que la vie n'a pas épargnée. Au lieu donc de vanter et de médiatiser le chien, n'est-il pas plus logique d'inciter plutôt l'être humain à plus de solidarité, de compassion et de fraternité à l'égard de son semblable handicapé ? Autrement dit, faire une véritable politique de solidarité familiale et fraternelle en laissant le chien au rôle qui est le sien, à savoir la chasse et la garde.
Vous auriez pu parler des singes aussi, parce qu'il y a eu des expériences avec les singes aussi, où les singes venaient donner à boire parce qu'il peut faire plus le chien. Je suis entièrement d'accord avec vous, quelle que soit l'amitié que j'ai pour ces bêtes, je les laisse à leur niveau d'aide technique et pas d'aide humaine. Et je suis bien d'accord avec vous qu'on peut trouver un certain nombre d'aides techniques, si on peut considérer que le chien peut être mis dans la catégorie des aides techniques. Mais en aucun cas, les aides techniques suppléent l'aide humaine. Et c'est un problème faux de la société de pouvoir dire payons des aides techniques, on en sera peinard avec les handicapés. Non, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, effectivement, il est là, comme vous l'avez dit, les capacités relationnelles que peuvent avoir des personnes entre elles, quel que soit leur niveau d'incapacité. Tant qu'on n'aura pas accepté ce débat, très clairement, et qu'on aura l'aide technique alibi, on ne s'en sortira pas. Je prends un autre exemple, parce que pour moi, je le prends dans une autre mesure qui sort des aides techniques, mais qui montre bien notre problème de comportement. C'est le problème de l'architecture, où on dit on va faire les toilettes alibi, vous savez, les toilettes handicapées. Ah, il faut en faire, merde, c'est vraiment très emmerdant, donc on va être obligé d'en faire au bout à droite. Et puis tout le reste, on aura, sous prétexte qu'on aura fait ces toilettes alibi, on ne va plus s'occuper du reste. Et donc tout le reste sera complètement inaccessible. Donc on sera content d'avoir des toilettes, mais le reste de l'architecture ne sera pas accessible. Je crois que vraiment, vous soulevez un problème de fond, qui est le problème que la technique ne réglera pas exclusivement le problème de la maîtrise des handicapés, qu'il y a un vrai problème de comportement, qui n'est pas un problème que de comportement collectif, c'est un problème de comportement individuel de chacun d'entre nous par rapport à nos exercices professionnels, mais également notre comportement familial et social.
Merci.